France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors après avoir changé le cours de la campagne, après avoir intéressé la justice, après avoir perdu la présidentielle, après avoir tourné le dos à la politique, la descente aux enfers continue pour François Fillon, puisque Sablé-sur-Sarthe a décidé de débaptiser le tournoi de boules Challenge François Fillon en Challenge du maire. Voilà, bon. Alors on ne sait pas encore si Pénélope Fillon remplacera son mari prochainement, rien n'est prouvé. On met ça au conditionnel, mais sûr que ça intéressera les médias dans les mois qui suivent. Et eux, ils sont venus faire un carreau sur l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Agathe Cagé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes docteur en sciences politiques et présidente de l'agence de conseil, Compass Label. Également, Patrice Moyon. Bonsoir.
Bonsoir.
De Ouest France. Anne-Sophie Beauvais. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'association des élèves et anciens élèves, et oui, de Sciences Po. Et vous êtes rédactrice en chef du magazine Émile. Et Charlotte Dornelas. Bonsoir.
Bonsoir.
De Valeurs Actuelles. Et ce soir, on parlera de la critique des médias, c'est la tendance politique du printemps. Anne Hidalgo est de sortie de formation professionnelle, mais juste avant, nous recevons Anaïs Ginori. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes la correspondante à Paris du quotidien italien La Repubblica. Et avec vous, nous allons revenir, bien sûr, sur la situation en Italie, puisqu'hier, c'était jour de vote dans la péninsule, des élections législatives dont le résultat paralyse un peu le pays. Et comme ce qui se comprend bien... Ben, s'énonce clairement. C'est le titre du journal Il Tempo qui résume le mieux ce lendemain de scrutin. Quel bordel! Voilà. Alors, restons polis. On va dire quel bric-à-brac. En effet, c'est la coalition de droite arrive en tête. À l'intérieur de cette coalition, c'est la formation eurosceptique et anti-immigration du chef de la Ligue qui a fait le plus gros score. Mais le premier parti du pays, c'est le mouvement 5 étoiles, parti populiste OVNI, qui arrive en tête. La coalition de droite et le mouvement 5 étoiles revendiquent le pouvoir mais refusent de s'allier alors qu'il n'est pas possible de trouver une majorité autrement. Voilà, c'est très clair, je crois. Mais le pire, en fait, c'est que c'est clair, en fait, pour certains, comme Luigi Di Mario, c'est le leader du mouvement 5 étoiles. On l'écoute.
Aujourd'hui, la Troisième République d'Italie peut enfin commencer. Et cette Troisième République sera enfin celle des citoyens italiens.
Voilà, Luigi Di Maio, donc leader du mouvement 5 étoiles. Anaïs Ginori, je vais vous poser une question très simple et en même temps très compliqué. Est-ce que l'Italie peut s'en sortir facilement de cette situation?
Alors, on a une certaine expérience dans le chaos et c'est vrai que, voilà, quand mes amis français me disent qu'ils sont inquiets, je dis, on sait faire, le chaos, on connaît. Là, c'est vrai que c'est particulièrement difficile parce qu'on a quand même, cumulé les mouvements populistes. Plus ou moins tous les pays européens ont affaire à des mouvements populistes. Nous, on en a quand même deux qui vont, là, justement, être en concurrence pour essayer d'être au gouvernement et on ne sait pas s'ils vont y arriver parce qu'aucun, de toute façon, aucune force politique a en ce moment ni la coalition ni la majorité pour gouverner. Donc c'est un vrai casse-tête pour le président de la République qui doit essayer de donner un nouveau gouvernement à l'Italie. Je pense que de toute manière, il y aura un jeu des alliances et que voilà, on va voir émerger probablement un gouvernement de coalition plus large et ça va prendre des semaines. Hier, il y a eu cette bonne nouvelle pour l'Allemagne l'idée que l'Allemagne avait finalement un gouvernement. Après des mois et en même temps, le soir, on a vu que c'est l'Italie, donc c'est la troisième quand même économie de l'Europe, qui entre dans une période qui va être quand même assez longue. On parle quand même de plusieurs semaines, si peut-être quelques mois, pour trouver ce gouvernement.
Alors, Anaïs Ginori, quand même, vous l'avez dit, donc il va y avoir des tractations, ça va débuter le 23 mars, mais là, la tractation en Allemagne, c'était, on va dire, entre la droite et la gauche, quelque chose d'assez simple. Là, on voit, en effet, ce sont des mouvements populistes, comme on dit, d'extrême droite, notamment, un autre mouvement 5 étoiles qui est un peu ovniesque pour nous en France. Ils disent qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Et pourtant, est-ce que ça sera forcément une alliance entre populistes?
Alors, toute la difficulté, vous avez transmis la déclaration, oui, de Luigi Di Maio, il dit « Bienvenue dans la Troisième République ». Alors, en Italie, il n'y a qu'une république depuis la fin de la guerre 46. C'est la même constitution, on n'a pas eu comme différentes républiques comme en France. Mais on a utilisé le mot « Deuxième République » en milieu des années 90, quand il y a eu main propre, et il y a eu toute une classe politique qui a été balayée, notamment le Parti communiste et la Démocratie chrétienne, et un renouveau complet avec l'émergence aussi de Silvio Berlusconi à cette époque-là. Et là, on parle, c'est vrai, Luigi Di Maio le dit, mais c'est vrai qu'il y a ce dégagisme qui émerge dans ce vote. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles personnalités qui émergent. C'est très compliqué, même pour les analystes, de dire qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'on ne sait pas. En principe, le mouvement 5 étoiles et la Ligue n'ont rien en commun, enfin, ont des choses éventuellement en commun, mais n'ont pas intérêt à gouverner ensemble. Mais c'est une des hypothèses, soit folle, soit elle. En principe, la gauche, qui est très mal.
Qui a fait moins de 19%.
Voilà, qui est très mal, un de ses minimums historiques, n'a rien à voir avec le mouvement 5 étoiles, mais le mouvement 5 étoiles prend un électorat de gauche. Donc on parle aussi d'un gouvernement du mouvement 5 étoiles qui serait soutenu par la gauche. Donc
il y a beaucoup de possibilités, en fait.
Exactement.
Agathe Cagé, pour vous, quand vous le voyez finalement de l'autre côté des Alpes, est-ce que vous avez l'impression que l'Italie suit la tendance en fait de ce qu'on peut voir actuellement? On a vu le Brexit, des élections en Europe de l'Est, une montée aussi de populistes en Allemagne. Est-ce que ça suit cette tendance, ce qui s'est passé hier?
Non, je pense que la situation italienne est plus proche de la situation espagnole, c'est-à-dire un pays qui va être difficile à gouverner pendant plusieurs mois, sans doute un retour aux urnes obligé. Il y a une excellente tribune de Sandro Veronezzi qui est parue dans Le Monde, où il disait de toute façon pour qui pouvait voter un Italien modéré. D'un côté, il y avait Forza Italia, on avait les mêmes banderoles qu'en 1994 de Berlusconi président, alors que celui-ci ne pouvait pas être élu. De l'autre côté, on avait vu du côté du Parti démocrate Renzi totalement s'effondrer aussi vite qu'il était monté. La question migratoire était un vrai sujet de débat pendant cette campagne électorale, donc c'était extrêmement difficile pour les Italiens de faire le choix devant les urnes. Et le mouvement 5 étoiles, même s'il est né sur un mot d'ordre extrêmement populiste avec le V-Day il y a quelques mois, est un mouvement qui avait un peu assagi son discours aussi pour réussir à prendre cette première place dans le champ politique italien.
Charlotte Dornelas, pour vous, on peut comparer tous ces mouvements en ce moment, ce qui souffle sur l'Europe?
Il y a des choses similaires, je pense, à mon avis, là en Italie. Ça s'est surtout vu dans le résultat qu'a fait la Ligue du Nord, c'est la question de l'immigration qui évidemment est présente dans toutes les élections, notamment en Europe, et qui a vu ces partis dits populistes, mais je ne sais pas très bien ce que veut dire populiste.
Parce
que
si aussi, voilà.
L'euroscepticisme fonctionne aussi, je pense qu'il y a la question de l'immigration, mais si le populisme se réduit au dégagisme, alors Macron est une élection populiste aussi, quoi.
Parce qu'il l'a pas renié.
Et d'ailleurs, il a compris, à mon avis, certaines choses que d'autres n'ont pas voulu comprendre avant lui de ses résultats en Italie. Il a évoqué notamment la question de l'immigration, mais je pense qu'il y a deux choses très différentes dans les résultats qu'il y a aujourd'hui en Italie. Il y a d'un côté un message pour la droite, c'est-à-dire que la coalition des trois partis de droite, c'est effectivement la Ligue du Nord qui avait un discours très clair sur l'immigration et sur l'identité qui remporte haut la main. Et pourtant, Berlusconi s'était placé comme le rempart, notamment par rapport aux eurosceptiques. Et il plafonne à 14% Berlusconi, donc c'est pas sa victoire à lui. Et de l'autre côté, effectivement, le mouvement 5 étoiles, dont on ne sait pas grand-chose, en fait, si ce n'est que les seules limites de son programme sont le mécontentement populaire. Donc, quel profil politique ça veut dire? Je ne sais pas.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le gouvernement retiendra bien l'âge de 15 ans comme seuil de non-consentement à une relation sexuelle. La mesure fera partie d'ailleurs du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Une confirmation ce soir de la secrétaire d'État, Marlène Schiappa. Cette mesure va dans le bon sens pour l'association L'Enfant Bleu. Au-dessous de 15 ans, il ne peut y avoir de consentement éclairé d'un mineur, selon l'avocat de la structure. Il reste encore beaucoup de travail à faire avec l'Iran. La déclaration de Jean-Yves Le Drian depuis Téhéran ce soir. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré les responsables iraniens pour évoquer la question des missiles balistiques, mais aussi l'influence régionale de l'Iran. En Italie, Matteo Renzi abandonne ce soir la direction du Parti démocrate après sa défaite électorale. Une incidence de plus après ses législatives d'hier. Le scrutin n'a pas permis de désigner de vainqueur net. Les populistes du mouvement 5 étoiles, tout comme la Ligue, parti d'extrême droite, revendiquent chacun le droit de gouverner. Face aux effets indésirables du Levothyrox, le parquet de Marseille ouvre une information judiciaire. Information contre X pour tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d'autrui. Le procureur de Marseille souligne aujourd'hui que 7000 plaintes ont été déposées en France par des malades de la thyroïde. Le néerlandais Groenewegen remporte la deuxième étape du Paris-Nice, une victoire au sprint cet après-midi à Vierzon, dans le centre de la France. Le champion de France, Arnaud Démare, conserve le maillot jaune de leader.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la situation électorale en Italie, victoire des eurosceptiques hier. Et tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense, Emmanuel Macron, de cette victoire? Ça tombe bien, il s'est exprimé. Et ça tombe bien, on va vous diffuser le son, Emmanuel Macron.
L'Italie a aujourd'hui, indéniablement, souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois et des mois. Et le contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne.
Alors Emmanuel Macron, alors Anaïs Ginori, vous êtes donc correspondante à Paris du quotidien italien La Repubblica. Quand vous entendez ça, est-ce que c'est vraiment l'immigration, ce sont les migrants qui ont pesé justement sur ce vote italien d'hier?
Oui, on peut pas douter sur le fait qu'il y a une grande composante, en tout cas qui a pesé dans le succès de la Ligue de Matteo Salvini et qui a pesé dans un vote contestataire. Mais je pense qu'il faut aussi analyser d'autres facteurs et notamment le succès du mouvement 5 étoiles n'est pas réductible à la déferlante migratoire. D'ailleurs, ils ont changé un peu leur discours sur ça. Ils sont moins critiques et c'est sûr. Surtout dans leur cas, des raisons économiques. Le mouvement 5 étoiles a pris un électorat de gauche en proposant le revenu universel, en proposant une relance de l'économie keynésienne. Donc c'est vraiment aussi des raisons économiques qui pèsent surtout dans le succès du mouvement 5 étoiles au Sud.
Et Patrice Moyon, pour vous aujourd'hui, est-ce que l'Europe, finalement, Emmanuel Macron le disait à peu près, mais beaucoup de gens disent, a une responsabilité finalement dans ce scrutin?
Écoutez, oui, quand on regarde la situation italienne, c'est quand même 600 000 clandestins qui ont été accueillis ces derniers mois en Italie. Donc c'est beaucoup. Et je pense que l'Italie a été très seule pour assumer ce fardeau.
Oui, cet accueil, ouais, c'est ça. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est à peu près ça. Et ça, vous l'entendez aussi, Anne-Sophie Beauvais, finalement, aujourd'hui, sur l'Europe qui ne serait pas venue, qui n'aurait pas aidé l'Italie, comme voilà, sur la Grèce, en disant, voilà, débrouillez-vous, et puis nous, on voit ce qui se passe.
Ah oui, enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce scrutin et effectivement le scrutin italien prouve s'il en était besoin que il y a un vrai scepticisme à l'égard de l'Union européenne et c'est pas en tout cas les affres de l'Angleterre avec le Brexit qui ont pu convaincre les Italiens qu'il fallait tenir compte du fait qu'il y avait une Union européenne qui pouvait leur être utile. Enfin, il y a eu une démonstration à l'inverse de ça, mais je trouve que le son que vous avez montré tout à l'heure d'Emmanuel Macron est intéressant parce qu'il y avait quand même une question qui était assez absente, moi je trouve, de ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était quand même la question de l'immigration. Et là, il semble dire, effectivement, il y a eu un vrai sujet et on doit en tenir compte aussi en France, parce que jusqu'à présent, cette question côté français était quand même très absente jusque-là.
Voilà, ça tombe au moment aussi du projet de loi, Gérard Collomb.
Oui, je pense que la prise de parole d'Emmanuel Macron est un peu une prise de parole pour vendre son projet de loi, parce que dans le contexte, d'accord, il y a le sujet migratoire qui est important, mais on a vu que le sujet migratoire a été traité l'an dernier en Italie par les autorités en essayant de suspendre les bateaux qui aidaient les migrants. Et c'est pas certain que cette tentative de limiter par l'aide aux migrants leur arrivée ait constitué la bonne réponse. Moi, je trouvais extrêmement intéressant également de regarder le contenu du projet du mouvement 5 étoiles, son contenu extrêmement social. Parce que le mouvement qui arrive en tête de ces élections italiennes, c'est ce mouvement sans aucune contestation possible, avec une avance qui est extrêmement forte. Et c'est un mouvement qui s'est construit sur... Oui, le dégagisme et sur les autres partis étaient un peu tous pourris, sur un mouvement qui s'est construit sur une forme de démocratie extrêmement directe, et c'est un mouvement qui s'est construit dans les derniers mois en gommant sa dimension anti-européenne et en insistant beaucoup sur des mesures sociales de gauche comme le revenu universel.
Vous vouliez réagir, non?
Anaïs. Mais je pense que c'est surtout les schémas en fait démocratiques traditionnels qui montrent un peu leurs limites. Après, je ne sais pas si le fond du programme a été tant regardé que ça, parce qu'en plus il y a une espèce de flou quand même un peu sur ce programme, mais en tout cas ce que nous montrent ces élections italiennes, et là aussi ça peut quand même, enfin la France peut s'intéresser à ça, c'est que quand on voit que les partis traditionnels, moi je trouve que il faudrait que nos partis traditionnels de droite et de gauche reviennent en France à une position un petit peu plus importante, parce que quand il y a un éclatement comme ça de la vie politique et que les partis traditionnels s'effondrent, ça veut dire que quand il y a des élections, on ne sait absolument pas le résultat que ces élections peuvent avoir. Et d'une certaine manière, c'est ce que l'Italie nous démontre aussi.
Alors une dernière chose, Ginori, après je vous libère. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Le fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir une alliance entre eurosceptiques, est-ce que ça peut être dangereux pour l'économie italienne?
C'est-à-dire, c'est pour l'économie, c'est pour la dette italienne. L'Italie a une dette qui est 160% de son PIB, 2300 milliards, je crois. Et donc, il y a une énorme pression des marchés financiers sur la dette italienne. Et c'est une des choses que le président de la République doit évaluer en ce moment, parce qu'il est garant de la stabilité politique, selon la Constitution, mais il doit évidemment garantir la stabilité économique. Donc, je pense qu'il va, le choix du Premier ministre qui sera fait par le président dans la République va tenir compte aussi d'une éventuelle réaction des marchés sur la dette du pays. Et c'est vrai que toute l'Europe regarde ça, parce que c'est, on dit de l'Italie too big to fail. Enfin, c'est un pays qu'on ne pourrait pas sauver comme on a fait par exemple pour la Grèce.
Pour la Grèce, oui.
Ça serait, si l'Italie, disons, va en faillite, c'est toute l'Europe. Il n'y aura aucun pays qui pourra ensemble réussir le sauvetage. Donc, la situation économique est très, même si d'ailleurs elle s'améliore. Et ce gouvernement qui a été sanctionné par le vote, le gouvernement de centre-gauche, avait fait des choses. Il y a un début de reprise, il y a des réformes qui ont en quelque sorte donné des fruits, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, on parlait avant de l'immigration, des politiques migratoires. Le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, qui a fait une politique très dure sur l'immigration tout en étant de gauche, vous le rappeliez, il a bloqué les migrants en Libye, enfin avec des accusations sur de violation des droits de l'homme. Il a fait une politique très dure. Il a perdu les élections. Dans son collège, il a été battu. Donc on
est vraiment finalement sur une classe politique qu'on a voulu mettre de côté, en fait, c'est ça.
Exactement.
Véritablement, c'est ça la chose.
En tout cas, donner sa chance à une nouvelle classe politique. Peut-être il faut voir le côté positif aussi des choses. C'est-à-dire que dans le dégagisme, il y a aussi donner sa chance à de nouveaux acteurs politiques.
C'est possible. Une chose, oui, je vous en prie.
Oui, je pense que la question des migrations, elle est appelée à durer sur la scène politique. Et de la même manière, la question sociale, parce que derrière le vote, par exemple, en Pologne du PiS, l'accession au pouvoir du PiS, il y a aussi la question sociale.
Bien sûr. Donc tout ça, en effet, Charlotte Dornelas, une chose, on a vu Marine Le Pen se féliciter parce que c'est son allié, hein, la Ligue du Nord. Derrière, elle imagine que pour elle, ça peut être porteur. Est-ce que la France ferait exception aujourd'hui en Europe à cette vague qu'on voit aujourd'hui?
Elle ne fait pas tellement exception, parce que finalement, il faut se souvenir de la dernière élection présidentielle où Marine Le Pen n'a pas échoué, en tout cas au moment du premier tour. Il y a eu ce débat, puis ensuite le discours sur le débat qui a pris beaucoup de place. Mais effectivement, où elle a déçu, je pense, son électorat sur ces questions-là, elle se félicite aujourd'hui parce qu'elle voit un mouvement qui est effectivement le sien. Mais je pense que c'est plus un avertissement, et c'est par ça que j'ai commencé, parce que je pense que c'est un avertissement pour elle, d'ailleurs, comme pour la droite de manière générale. Laurent Wauquiez demain, c'est que qui gagne aujourd'hui à droite, et là par contre ça se vérifie partout, aussi bien sur le mouvement 5 étoiles, je suis beaucoup plus prudente parce que j'arrive pas à définir leur ADN, mais à droite, qui gagne? Ceux qui sont extrêmement clairs sur la question de l'immigration. C'est ce qui a été beaucoup reproché à Marine Le Pen aux dernières élections, et elle a voulu faire finalement la question que vous posiez un peu. Il y a quelques années, le non l'avait emporté contre la Constitution européenne, donc les eurosceptiques. Elle a voulu faire cette coalition entre les gens qui avaient dit non, et elle n'est pas possible parce que ça ne définit pas un profil politique ni une colonne vertébrale politique de dire non à la Constitution européenne, ni l'euroscepticisme d'ailleurs. C'est pour ça que je ne crois pas tellement à une alliance, en tout cas sur le long terme, entre les eurosceptiques. Par quoi on remplace ça? Et là, c'est une vraie question.
Ça sera à suivre. En tout cas, merci beaucoup Anaïs Ginori d'être passée ce soir pour nous éclairer un petit peu sur cette situation italienne. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
8 arrestations hier, quartier Molenbeek à Bruxelles, dans un dossier terroriste. Mais ce soir, le parquet fédéral fait savoir que les 8 suspects ont été remis en liberté sans aucune charge retenue contre eux. Les enquêteurs soupçonnaient la possible préparation d'un attentat. Une première journée d'explication au procès du tueur de la gare de Perpignan. Jacques Ranson, comparé depuis ce matin devant la cour d'assises, poursuivi pour avoir tué et atrocement mutilé 2 femmes, mais aussi tenté de violer 2 autres victimes laissées pour mortes. C'était il y a maintenant 20 ans. Emmanuel Macron aujourd'hui demande à Vladimir Poutine d'agir sur la question de la Syrie. La France demande à la Russie de prendre des mesures réelles et concrètes pour que le régime syrien accepte sans ambiguïté la trêve. Une trêve demandée par l'ONU principalement sur le secteur de la Ghouta orientale. Vers un véritable Big Bang selon Muriel Pénicaud, la réforme de la formation professionnelle. Selon la ministre du Travail, chaque salarié devrait disposer de 500 euros par an pour se former à la place de l'actuel compte en heures. La collecte également des fonds serait assurée par les URSSAF. La CGT et la CFDT dénoncent un projet libéral. Le MEDEF craint une nationalisation. Et puis Laurent Wauquiez s'installe à Mayotte pour 3 jours. Le président des Républicains veut prendre le temps de connaître les problèmes de la population. Mayotte entame sa 3e semaine de grève générale. Des habitants et des élus restent mobilisés contre les questions d'insécurité.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors bien sûr, en tant que radio du service public, nous devons d'éviter au maximum les anglicismes. Alors concernant la formation professionnelle, quand la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, promet un Big Bang, doit-on dire concernant la formation professionnelle, Muriel Pénicaud promet un grand boom. Voilà, hein. C'est vrai que boom, ça fait moins révolution cosmique que Big Bang, donc on va y aller pour boom. Hein. En dévoilant ce matin les pistes de sa réforme professionnelle, la ministre du Travail ne s'est pas fait que des amis. Parmi les mesures, le compte personnel de formation ne sera plus en heure, mais en euros, création d'une application mobile pour connaître sa situation partout. La France investit chaque année 32 milliards d'euros dans la formation. Une grande partie est gérée par les organismes paritaires, syndicats et patronats. Désormais, ce sera donc l'URSSAF qui s'occuperont de cet argent, qui aurait, selon certaines enquêtes, permis le financement de permanents d'organismes professionnels. Mais au moins, il y aurait un point positif selon les syndicats, c'est la piste de réflexion concernant le compte personnel. Jean-Eudes Duménil Dubuisson, il est secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Ça sera peut-être aussi source de confusion à l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire que les salariés ne doivent pas imaginer que ces sommes leur sont dues et qu'elles peuvent être utilisées à autre chose. Donc ça doit être clairement dans l'esprit des gens que ces sommes sont uniquement pour la formation.
Voilà, Jean-Eudes Duménil Dubuisson, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, ce qui est assez amusant, Anne-Sophie Beauvais, c'est qu'on voit sur la gestion, on l'a entendu là, tout à l'heure dans le rappel des titres, les syndicats et le MEDEF sont vent debout, puisque ça serait plus eux qui géreraient cet argent. Et d'un côté, vous avez les syndicats qui disent c'est une mesure libérale, et le MEDEF qui dit c'est une nationalisation de l'argent. On voit bien là quand même que la ministre du Travail et Emmanuel Macron peuvent hérisser véritablement les syndicats.
Oui, mais en même temps, c'est assez juste. Il y a un côté un peu libéral et puis on recentre un peu ça sur l'individu. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque individu doit devenir de plus en plus responsable de sa formation. Et il y a effectivement une reprise en main, en même temps, un peu de l'état du dispositif. Donc, quelque part, que ça crispe des deux côtés, ça se comprend.
Ouais, et vous pensez qu'il y a des syndicats moyens de riposter ça? Votre avis ?
Moyen de riposter, je sais pas. En même temps, la logique d'Emmanuel Macron, c'est de vouloir réformer beaucoup, de réformer vite. Là, il enchaîne un petit peu les chantiers.
Demain,
donc,
il y aura la justice.
Voilà, donc le risque, c'est peut-être qu'à un moment donné, il a ouvert beaucoup de chantiers en même temps. C'est qu'il y a une espèce de crispation qui se passe. Et en plus, dans une période de croissance, c'est souvent dans ces périodes-là, d'ailleurs, que des manifestations sociales peuvent avoir lieu, parce que c'est souvent dans les périodes où tout va bien, que chacun se dit finalement, moi, qu'est-ce que j'en tire de cette période où tout va bien? Et je crois que c'était Tocqueville qui disait que c'est quand tout va bien que les gouvernements doivent commencer à trembler. Enfin, il le disait mieux que moi, mais c'est un peu l'idée.
Charlotte Dornelas, aujourd'hui, voilà, se fâcher avec les syndicats, le MEDEF, est-ce qu'il y a un risque? Alors, en sachant qu'il cajole d'un côté, il se fâche de l'autre, est-ce qu'il y a un risque?
Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de risques depuis le début de l'année. En fait, à chaque fois, les syndicats font leur travail, c'est-à-dire qu'ils râlent. À chaque fois qu'il y a une annonce. Non, mais là, en l'occurrence, depuis le début de l'année, à chaque fois ils promettent monts et merveilles, ou en tout cas en l'occurrence une mobilisation très forte qui n'a encore pas eu lieu. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver effectivement par la cristallisation et la convergence de plusieurs luttes, on va dire, en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on dit le gouvernement lâche les syndicats, c'est pas la première fois, et effectivement il y a des réformes qui se suivent, il lâche les syndicats, mais les syndicats ont été lâchés avant par les gens qui sont censés défendre, à savoir par les salariés. Ils représentent pas, aujourd'hui il y a beaucoup de salariés qui ne leur font pas confiance, qui ne passent pas par eux, c'est quand même aussi une réalité. Et qu'au début de l'année, ils nous ont promis une mobilisation qui n'a pas eu lieu. Donc, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à passer, justement, à force de faire beaucoup de réformes? À chaque fois, c'est des réformes quand même qui sont présentées de manière à dire, vous êtes quand même tous d'accord qu'il y a un problème. Mmh. Et le fait est que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème. Et il passe comme ça à chaque fois. Et puis surtout, là, elle nous annonce un Big Bang, comme sur tous les autres sujets, ils nous ont annoncé la SNCF, c'est un truc de fou. L'immigration, attention, on met tout par terre. En fait, à chaque fois, c'est des moitiés de réformes. Et donc, il n'y a pas lieu de mobiliser, à mon avis, en tout cas sur chaque réforme. Peut-être toutes ensemble.
Agathe Cagé, c'est une moitié de réforme ?
Il faudra voir si c'est une moitié de réforme ou c'est casser l'outil à moitié, un outil cassé à moitié, c'est un outil qui reste cassé. Non,
Bah, qui est déjà cassé. Hein.
Qui est déjà... Non, mais vous avez une image, vous avez un sondage qui est sorti de BVA la semaine dernière qui montrait que les Français avaient une très bonne image de la formation professionnelle. C'est un point positif parce qu'une très bonne image, ça montre aussi un vrai intérêt des Français. Après, le point essentiel, c'est qu'il est dommage que Muriel Pénicaud annonce le suivi de sa formation professionnelle par smartphone le jour où Jean-Michel Blanquer apprend qu'au collège, les élèves n'auront plus le droit de se servir de leur portable.
Ça les concerne pas, sérieux... la formation professionnelle.
Non, mais sérieusement, c'est un point important. C'est-à-dire que dire que les salariés seront, parce que pour l'instant, on n'a pas les garde-fous de leur accompagnement en place, que les salariés seront tout seuls face à leur smartphone pour gérer leur choix de formation, les organismes auprès desquels ils se rapprocheront, l'utilisation de leur heure de formation, ça c'est un vrai sujet. Parce que dire on ressente sur le salarié, si c'est pour le lâcher tout seul et le laisser construire un parcours de formation, au moment même on a besoin de construire ensemble les parcours de formation vers les métiers de demain, c'est une vraie problématique. Alors, et c'est ça qui pose pour moi le plus problème dans la réforme annoncée.
On va continuer à en parler dans un instant. On parlera également d'Anne Hidalgo et aussi de la chasse aux journalistes qui est un peu ouvert par les politiques. C'est le printemps, enfin on arrive près du printemps, c'est normal. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers Paris. La température extérieure est bouillante et la pression maximale. Des averses de buts sont à prévoir. Veuillez attacher votre ceinture. Merci d'avoir choisi Beansport. Nous vous souhaitons un excellent match.
Demain, tout est encore possible pour le Paris Saint-Germain. Vivez le choc décisif des huitièmes de finale retour de l'UEFA Champions League, Paris Saint-Germain-Real Madrid, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. France Info à Angoulême, 105.5.
Et partout dans le monde, sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Ce sera encore instable demain. Les averses arrivées par l'ouest aujourd'hui auront gagné l'Alsace et la Franche-Comté, avec de la neige des 1000 mètres, pas grand-chose sur les Vosges, mais 10 cm attendus sur le Jura. Entre le nord-ouest, le massif central, les Pyrénées, là aussi quelques averses le matin, plus marquées sur le littoral, puisqu'une nouvelle perturbation s'invitera avec du vent. Elle gagnera la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou et le sud-ouest pour l'après-midi. Les averses prendront de la vigueur, elles s'accompagneront parfois d'orages. Du nord de la Seine à Rhône-Alpes, des éclaircies, quelques averses l'après-midi. Midi dans la partie sud et en région parisienne. Autour de la Méditerranée, ce sera lumineux, un bémol pour la Corse sous les averses. On aura encore des gelées dans le nord-est le matin, mais 2 à 8 degrés ailleurs. L'après-midi, ce sera à peu près de saison, 8 degrés à Strasbourg, 11 à Lille, Paris, Rennes, 12 à Bordeaux et Lyon et 15 degrés à Marseille.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'Italie plongée dans l'incertitude politique après les législatives d'hier. La coalition de droite arrive en tête, mais les scores historiques des populistes du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite de Matteo Salvini brouillent les cartes. Salvini, donc grand allié de Marine Le Pen sur la scène européenne, qui a pris le leadership de la coalition de centre-droit. Il a recueilli près de 37% des suffrages hier. Elle n'est pas majoritaire, mais Salvini est aujourd'hui un poids lourd de la politique italienne, au discours ouvertement populiste et xénophobe.
Salvini, c'est le nouvel homme fort de la coalition de centre-droit. Son parti a fait un bond de 14 points depuis la dernière élection et l'interrogation du jour était de savoir si une alliance post-élection avec l'autre grand vainqueur populiste, le 5 étoiles de Luigi Di Maio, si ce rapprochement était possible. La réponse est non pour Salvini.
Io sono uso mantenere la parola data.
Je suis habitué à respecter ma parole, mon engagement auprès de 60 millions d'Italiens. Et cet engagement, c'est la coalition de centre-droit. J'ai lu tellement d'analyses bizarres sur des coalitions étranges.
Pas de changement de cap, Salvini affirme qu'il consultera tout le monde et essaie de démontrer que le costume de Premier ministre est à sa taille, sans pour autant perdre de vue son projet.
Le vote des Italiens nous permet de reconstruire une Europe fondée sur les femmes et les hommes, et pas sur les contraintes et la bureaucratie. Et quand je regarde les soi-disant expériences populistes ailleurs en Europe, je suis fier et je reste fier d'être populiste.
Pas de sortie anti-migrants en ce lendemain de vote. Matteo Salvini préfère s'adresser à ses électeurs et dérouler son discours anti-système sans mentionner que sa formation a déjà fait partie de deux gouvernements Berlusconi depuis 2005. Milan, Raymond Albouy, Olivier Pouchat, France Info.
Et ce soir, l'ancien chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, annonce qu'il quitte la direction du Parti démocrate après la défaite de son mouvement qui a recueilli seulement 18,7% des voix aux législatives d'hier. En France, le volet pénal du dossier du Levothyrox a franchi une nouvelle étape avec la désignation d'un juge d'instruction marseillais, un magistrat qui va enquêter sur les 7000 plaintes déposées par des malades de la thyroïde victimes d'effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. Gérard Collomb lui confirme que le gouvernement a retenu le principe d'une amende forfaitisée de 2,90 à 750 euros pour sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel dans l'espace public. Après la remise d'un rapport parlementaire sur le sujet, le projet de loi sera présenté à la fin du mois. L'arsenal législatif visant les viols sera également renforcé, précise le ministre de l'Intérieur. La CGT Force Ouvrière rejette le plan de départ volontaire chez Pimki. Cette décision à dessein indiqué majoritaire au sein du groupe de prêt-à-porter n'empêche en tout cas pas la direction d'appliquer unilatéralement ce plan qui prévoit 208 départs. Et puis le néerlandais Dylan Groenewegen enlève au sprint la deuxième étape de Paris-Nice cycliste à Vierzon. Le champion de France Arnaud Démare conserve le maillot jaune de leader. Il termine cinquième de l'étape du jour. Les informer, la suite.
20h, 21h, les informer, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils hissent très haut la voix de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Agathe Cagé. Vous êtes docteur en sciences politiques et présidente de l'agence de conseil Compass Label. Également Patrice Moyon de West France, Anne-Sophie Beauvais, directrice générale de l'association des élèves et anciens élèves de Sciences Po. On va faire court pour l'instant. Et Charlotte Darnay. Hélas, de valeurs actuelles. Juste une chose, Patrice Moyon, je vous ai pas entendu sur la formation professionnelle. Tout à l'heure, quand Charles Dornelas disait que c'était une réforme à minima, c'était pas le Big Bang annoncé, vous n'êtes pas d'accord.
Je pense que c'est une vraie réforme et c'est difficile pour les syndicats aujourd'hui de se mobiliser contre la réforme telle que la défend Muriel Pénicaud. Pourquoi ? Parce que le système actuel n'était ni efficace, il coûtait cher, il était opaque. Donc, il ne profitait pas à ceux qui en avaient le plus besoin. Donc maintenant, il faut voir si effectivement la réforme va porter ses fruits.
Oui, mais ceux qui en ont le plus besoin, justement, formation continue, c'est quand même généralement ceux qui sont les moins qualifiés. Et en fait, Emmanuel Macron, qui a quand même construit toute sa campagne, enfin pas toute sa campagne, mais en tout cas ce discours-là était très présent dans sa campagne sur les outsiders, c'est-à-dire justement ceux qui sont peu qualifiés, ceux qui sont en dehors du marché du travail. Et on sait combien la formation continue est essentielle, parce que le taux de chômage, il est chez les moins qualifiés. Et j'ai pas encore vraiment mis en avant cet argument-là. Et je suis très étonnée, d'ailleurs, moi je suis très étonnée d'un président, enfin d'un candidat qui a eu un discours très fort sur ce sujet des outsiders, sur le fait de casser des rentes, enfin ça faisait vraiment partie de ces éléments de langage, et qui, depuis qu'il est finalement installé, ce discours-là semble un petit peu disparu. Et sur une réforme comme celle-ci, il aurait pu réapparaître. En tous les cas, aujourd'hui, ce que moi j'en ai entendu, ça semblait pas, il y a un programme effectivement qui va s'adresser aux chômeurs de longue durée et aux non qualifiés, mais dont on nous parle assez peu, et j'ai pas l'impression que les montants soient non plus considérables.
Oui, il y a un tout petit élément de différenciation entre les 500 euros pour tous et les 800 euros pour les non qualifiés, mais on peut se dire que 800 euros pour former quelqu'un sans qualification, c'est relativement faible, c'est permettre à quelqu'un de passer un permis, mais enfin ça va pas lui permettre de reprendre véritablement une qualification pour changer totalement de métier. Et puis il faut quand même pas oublier une chose quand on parle de formation professionnelle. Aujourd'hui, vous avez 200 000 emplois qui sont non pourvus, vous avez 3,4 millions de chômeurs de catégorie A. Donc réformer la formation professionnelle, c'est bien, c'est pas ça qui permettra de créer de l'emploi pour résoudre et résorber le problème du chômage en France.
Oui, c'est ça, c'est de se dire cette réforme finalement à quoi ça sert, et ça devrait être un outil pour essayer de résorber le chômage, et on n'a pas l'impression que ce soit présenté comme ça. On a l'impression que c'est présenté vraiment une réforme qui s'adresse avant tout aux salariés, avant tout aux plus qualifiés, en tout cas on sent bien que c'est eux qui vont en bénéficier assez directement, mais d'avoir fait de cette réforme un vrai outil contre le chômage et un chômage de masse, parce qu'il faut quand même rappeler notre taux de chômage à nous, on est à 9%,
oui, tout à fait.
Et on est descendu que deux fois dans ces 30 dernières années, que deux fois en dessous des 9%, ce qui est assez inédit dans tous les pays de l'OCDE. Donc c'est quand même un vrai
c'est,
sujet.
C'est l'idéologie. Pourquoi faire ? C'est l'idéologie du premier de cordée. En effet, on peut s'interroger sur son bien fondé dans ce domaine-là.
Pas soyons, et après on va changer, mais rapidement.
Non, ce qui est intéressant aussi, c'est que les salariés à temps partiel qu'elles bénéficieront de la même somme sur leur compte. Moi, je pense que c'est une première étape qui a l'avantage de clarifier les choses. Elle clarifie le financement, elle sera peut-être plus efficace. Ensuite, effectivement, il faut que le gouvernement aille plus loin pour permettre à ceux qui sont aujourd'hui en dehors du marché du travail d'y accéder.
Alors, en tout cas, ça fait partie d'un volet de la loi de Muriel Pénicaud qu'elle présentera au Conseil des ministres au mois de mars. On va parler un petit peu de politique puisque, en vous réveillant ce matin, peut-être que vous avez senti quelque chose, un truc genre, voilà, comme ça. Oui, c'est l'accélération fait à la bouche, hein. Une accélération du monde politique pour un rendez-vous qui arrivera dans 2 ans, à savoir les élections municipales, que ce soit à Pau, Montpellier, Nice, Lille, tout le monde est déjà dans les starting blocks comme si les élections européennes à venir l'année prochaine, c'était déjà de l'histoire ancienne, hein. Alors, il y a une ville qui, comme souvent, focalise toutes les attentions. C'est la capitale. Paris, dirigée par Anne Hidalgo, continuera-t-elle de l'être en 2020? Dans une longue interview publiée par le journal Libération, la maire de Paris contre-attaque face aux différentes critiques et n'exclut pas un rassemblement avec les troupes macronistes et Valérie Pécresse là-dedans. Eh bien, la présidente de la région Île-de-France, elle, est toujours sur le sujet des voies sur berge. Anne Hidalgo veut continuer son œuvre. Et ça ne lui paie pas trop, Valérie Pécresse.
Les coups de force, c'est franchement... J'allais dire le contresens de l'histoire. Mon rôle n'est pas de contrecarrer le projet d'un maire. Mon rôle, c'est de le mettre en cohérence avec les 1270 communes qui l'entourent, de façon à ce que ce ne soit pas une souffrance pour des centaines de milliers de personnes que de subir une décision égocentrique de la ville de Paris.
Elle veut porter une candidature de coalition. Anne Hidalgo affrontera-t-elle Valérie Pécresse en 2020 à Paris ?
Non, vraiment, je le dis, mon combat est celui de la région et moi je suis focalisée sur la réussite de ma mission.
Voilà, Valérie Pécresse avec Léa Salamé ce matin sur France Inter. Charlotte Dornelas, pourquoi cette focalisation en ce moment autour d'Anne Hidalgo? Il y a les voies sur berge. On sent que là, dans cette interview, elle a voulu vraiment monter au créneau dire « je suis encore là et il faudra compter sur moi en 2020 ».
Je ne sais pas si elle a voulu monter au créneau ou tenter de rattraper le créneau que certains avaient monté contre elle. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que tout le monde a compris.
Ça va se dire à un moment,
voilà,
Charles,
ça va se dire, on a compris. Non, c'est quelqu'un qui est un peu acculé quand même, qui explique que non, il n'y a pas de problème, qu'elle tend la main à tout le monde, mais elle tend la main essentiellement à des gens qui l'ont vertement critiqué ces derniers temps, notamment certains élus de La République En Marche. À droite, elle bénéficie d'une chance, Anne Hidalgo, c'est qu'il n'y a pas de candidat crédible pour la droite dans 2 ans. Mais quelqu'un qui annonce aujourd'hui, qui est maire de Paris et qui annonce sa candidature dans 2 ans, déjà, on se dit. Elle n'est pas très très sereine quand même pour l'annoncer si tôt. Et je pense qu'elle fait face à quelque chose de très précis. On l'a vu notamment pour qu'elle se fasse siffler au César, c'est qu'a priori ça n'est pas que idéologique comme opposition, parce que c'est des gens qui sont a priori idéologiquement assez alignés avec elle. C'est simplement que...
Le
monde du spectacle, a priori, Anne Hidalgo n'a pas de problème sur le terrain idéologique. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a beaucoup dit à chaque fois qu'on l'a critiquée sur des choses extrêmement précises. Elle a beaucoup dit oui, on dit ça parce que je suis une femme, parce que je suis espagnole, c'est la droite réactionnaire. Je ne suis pas sûre qu'au César, c'était le rassemblement de la droite réactionnaire. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais simplement, elle s'est beaucoup perdue et elle le reconnaît elle-même, puisqu'elle le dit, je vais passer plus de temps à Paris, etc. Elle s'est perdue dans des grandes causes pendant 2 ans. Elle en a oublié le détail qui est pourtant son métier, de gérer effectivement le quotidien de la ville de Paris et qui est devenu invivable à certains égards.
Alors, voilà. On va continuer à en parler d'Anne Hidalgo et de ces municipales qui s'organisent déjà. Et oui, comme le temps passe. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Avec la mise en route d'une campagne contre le harcèlement dans les transports en commun, elle a été présentée aujourd'hui par le Conseil régional d'Île-de-France, la SNCF et la RATP. 1 mois d'information et de sensibilisation. La campagne propose notamment un numéro d'alerte, le 3117, valable par téléphone ou bien simplement par SMS. Un opposant condamné aujourd'hui après les affrontements hier sur le site de Bure dans la Meuse. 3 mois de prison avec sursis pour cet homme de 22 ans. Il avait mis un coup sur le casque d'un gendarme lors de ce rassemblement contre le projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Un jugement aujourd'hui en comparution immédiate à Bar-le-Duc. 7 autres participants restent en garde à vue. La France va continuer les discussions avec l'Iran, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. La déclaration cet après-midi de Jean-Yves Le Drian depuis Téhéran, le ministre des Affaires étrangères, a rencontré les responsables iraniens pour évoquer la question des missiles balistiques, mais aussi l'influence régionale de l'Iran. Une conséquence de plus sur l'absence de majorité claire en Italie et la perte de vitesse des partis traditionnels. Matteo Renzi abandonne ce soir la direction du Parti démocrate après sa défaite aux législatives d'hier. Et puis le cyclone Dumasil se rapproche un peu plus de la Réunion, de la crèche au lycée. Les établissements qui accueillent des jeunes sont fermés aujourd'hui. L'île est placée en vigilance face aux vents forts et fortes pluies. La Réunion est déjà fragilisée par une tempête. C'était en janvier dernier.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, petit point agenda électoral, hein, puisqu'il va y avoir des élections partielles législatives, et puis ensuite ça sera les élections européennes en 2019, et en 2020 ça sera les élections municipales. Et voilà des élections qui excitent tout le monde dans tous les états-majors. Ce matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a donné une longue interview dans le journal Libération. Anne-Sophie Beauvais, Anne Hidalgo, il y a une question que lui pose au moment de journée de Libération, c'est sur le côté clivant. Et quand on lui pose la question... sur sa, dit même, rigidité, elle explique que c'est un adjectif, selon elle, appliqué à toutes les femmes qui ont du pouvoir. Ce serait un défaut pour les femmes et une qualité pour les hommes.
Oui, alors il se trouve que moi j'ai interviewé aussi Anne Hidalgo il y a quelques jours et c'est vrai que ce sujet est venu dans la conversation, c'est-à-dire elle y est venue d'elle-même, le fait que c'était effectivement dur d'être une femme en politique. Sur ce point-là, je lui donnerais malgré tout assez raison. Il y a quelque chose qui est troublant dans la personnalité, si je peux me permettre de le dire comme ça, d'Anne Hidalgo, pour l'avoir rencontrée. Moi, c'était la première fois que je la voyais. On s'attend pas du tout à voir cette femme-là en fait, quand on est en rendez-vous, j'allais dire, avec elle, parce qu'elle a effectivement cette image d'une femme dure, c'est pas seulement sur le fond, mais aussi un peu sur la forme. Et en fait, on découvre, en la rencontrant, une femme beaucoup plus, j'allais dire, j'ose pas dire sympathique, parce que ce serait déplaisant, mais en tout cas,
c'est bizarre de dire sympathique et déplaisant dans la même phrase. En fait.
Merci. Le bon mot est celui-là, c'est-à-dire une femme beaucoup plus chaleureuse. Et c'est vrai, pour avoir moi-même travaillé auprès d'une femme politique, que c'est très compliqué pour une femme d'être un peu, si vous êtes trop ferme, on va vous le reprocher beaucoup plus difficilement. En même temps, vous êtes à la recherche aussi d'une crédibilité qui est plus dure à trouver que pour un homme. Donc sur ce point-là, j'avoue que je pense qu'il y avait une vraie sincérité, ouais. Et quelque part, je la partage.
Patrice Moyon, est-ce que c'est une femme finalement, Anne Hidalgo, on en parle, et pas seulement parce que c'est bien sûr la maire de Paris, mais aussi parce qu'à un moment, on lui avait dit qu'elle pourrait avoir un destin national, pourquoi pas. Et là, dans cette interview, elle dit, en fait, on se rend compte qu'elle se fiche totalement du parti auquel elle appartient.
Je ne sais pas si elle se fiche du parti auquel elle appartient, mais elle est attachée en tout cas à sa ville, elle porte un projet pour sa ville, elle se bat aujourd'hui contre la place de l'automobile. C'est forcément un sujet difficile, donc moi je trouve qu'on est assez dur avec elle, et effectivement être une femme en politique, c'est pas facile.
Oui, mais en même temps elle dirait, oui, tiens, non, mais...
Moi ça me fait toujours sourire sans blague, parce que ça fait des années qu'à chaque fois qu'on la critique, alors que ce soit peut-être plus difficile à certains moments d'être une femme en politique, je ne sais pas, moi je le répète très souvent, j'ai un âge qui fait que ça a toujours été une chance pour moi d'être une femme, parce je suis arrivée à un moment où la parité a voulu que j'avais plus de place effectivement que des hommes de mon âge et qui font le même métier. Hein. Je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être difficile, ça a peut-être été difficile pour elle à certains moments, et ça le restera peut-être, d'être une femme. En l'occurrence, les critiques qui s'adressent à Anne Hidalgo n'ont absolument rien à voir. Quand il y a un problème avec les Vélib, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'on lui dit. Quand la ville est de plus en plus sale et que le budget propreté a baissé alors que l'espace public parisien a augmenté, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'on lui dit, c'est parce que c'est plus sale. Quand il y a un problème de circulation à Paris, c'est pas parce que c'est une femme qu'on lui dit. On disait la même chose à Delanoë d'ailleurs avant elle. Hein. Il ne semble pas que c'était une femme.
La réalité, c'est qu'on dit d'Emmanuel Macron qu'il est jupitérien, de Anne Hidalgo qu'elle est cassante. C'est aussi une forme de perception et d'interprétation des comportements.
C'est lui qui a utilisé le mot
jupitérien. On a repris dans sa bouche le mot jupitérien. On n'a jamais dit qu'il était cassant et autoritaire dans ses prises de décision.
Non, mais avec la loi immigration, certainement.
Je pense que Anne Hidalgo a déjà un destin national et international, parce que quand vous êtes à la tête d'une ville comme Paris, d'une telle importance économique et d'une telle importance démographique, vous êtes à la tête d'une métropole internationale. Donc, est-ce que prendre le Parti Socialiste pour elle a une importance quelconque ? Non, parce que prendre le Parti Socialiste, s'intéresser au combat socialiste, aujourd'hui, est bien en dessous de son ambition. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose à Anne Hidalgo, c'est qu'elle a la force d'appliquer, malgré l'évolution du paysage politique et malgré les oppositions fortes à plusieurs de ses mesures, elle a la force d'appliquer ce qui était dans son programme. Et si l'ensemble des oppositions se convergent en ce moment vers elle, c'est aussi un peu parce qu'on joue à tout le monde veut prendre sa place. Ce soit à droite, gardons le son de Valérie Pécresse de ce matin pendant deux ans, que ce soit à droite ou que ce soit chez La République En Marche.
Anne-Sophie Beauvais.
Oui, mais c'est d'ailleurs, la guerre entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo va être intéressante à observer, parce que c'est vrai qu'être maire de Paris, c'est à la fois être un maire comme les autres, parce que gérer Paris, c'est gérer une commune avec tous les problèmes quotidiens que ça peut poser, mais c'est vrai que c'est gérer une capitale. Mais cette capitale, elle a une dimension qui est quand même assez étroite. Paris est une petite capitale, et donc il y a beaucoup de problématiques, et c'est le dossier qu'on a voulu faire dans Émile, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques qui se gèrent au niveau de la région. Les problématiques économiques, les problématiques de logement, les problématiques de transport. Et vous avez finalement Valérie Pécresse qui est dans son rôle, et ça va être intéressant de voir cet affrontement
Ce que vous dites aussi, c'est en effet, mais ça, on le retrouve finalement dans toutes les villes de France, c'est aussi l'affrontement entre région et ville. Et Anne Hidalgo a le même réflexe que n'importe quelle maire. Elle dit, peut-être que vous ne m'aimez pas dans la région, mais les Parisiens votent pour moi. Ils sont pour moi, c'est ça aussi.
Anne Hidalgo a été élue pour défendre Paris et sa vision de Paris. Anne Hidalgo n'a pas été élue pour défendre une forme d'homogénéisation au niveau régional, même si, bien sûr, il faut penser la péréquation entre les territoires.
On ne peut pas transformer une ville comme Paris sans penser à l'agglomération parisienne. C'est-à-dire qu'il faut forcément une concertation à un moment entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Parce que tous les habitants qui sont dans la région parisienne, ils sont appelés à venir à Paris. Donc il faut forcément avoir une politique de transport, une politique de déplacement qui corresponde à l'agglomération parisienne et pas seulement aux Parisiens, sinon c'est très égoïste.
Et un dialogue qui semble d'ailleurs difficile entre les deux, parce qu'en fait, autant elle s'entend bien avec Ollier, vous m'excuserez, j'ai oublié son prénom.
Patrick Ollier,
le maire de Rueil, et donc avec qui du Grand Paris, effectivement. Vous avez la figure du Grand Paris avec Patrick Ollier, vous avez Valérie Pécresse avec la région et Anne Hidalgo avec la ville de Paris. Avec Patrick Ollier, ça se passe plutôt bien, mais avec Valérie Pécresse, c'est très tendu. Les deux vont vous dire qu'il faut dialoguer, c'est-à-dire qu'il faut que la région dialogue avec Paris, que Paris dialogue avec la région. Elles aimeraient que même leurs équipes se parlent plus, mais dans le fond, mais c'est parce qu'il y a aussi une rivalité politique et qu'il y a une rivalité d'enjeu national, politique national.
Pourtant, elles avaient vu vraiment très amies quand elles étaient parties au Japon, tout ensemble, je ne sais pas. Mais vous savez, nous, c'est ce qu'on voudrait pourtant, hein, que tout le monde s'aime en tout cas. Allez, on va justement parler un peu continuer à parler de politique, parce qu'en ce moment, il y a de quoi se réjouir. Vous savez que nous, journalistes, nous ne sommes pas la profession la plus détestée des Français. Non. On est avant-dernier, en fait. Pour tout vous dire, selon une étude, nous sommes entre huissiers de justice et des ratiseurs. Donc, c'est pas mal. On essaye de trouver des zones de confort, tant la chasse aux journalistes par les politiques semble ouverte en ce moment. Avec leurs petits appos, ils nous attirent et paf, voilà, on s'en prend une. Peut-on critiquer presse et journalistes? Alors, bien sûr, puisque la carte de presse et un chèche autour du cou, c'est pas des boucliers à critique. Mais là, il y a un tir groupé féroce entre Laurent Wauquiez, qui parle du parti médiatique, et Jean-Luc Mélenchon de CIA médiatique. C'est pas la folle ambiance. Tiens, d'ailleurs, Marine Le Pen a salué le positionnement critique de leader de la France insoumise. On écoute la présidente du Front National.
Jean-Luc Mélenchon, il vient de découvrir qu'il y a cette puissance médiatique qui va à l'encontre, bien entendu, des opposants à Emmanuel Macron depuis qu'il en est victime. Moi, ça fait bien longtemps que je le sais.
Voilà, donc c'est Marine Le Pen. Et voilà pourquoi ce matin, Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis, on a remis une couche, Alexis Corbière.
Oui, il y en a. Oui, c'est une réalité. Il y a des journalistes
qui veulent. Nous sommes complotistes.
Non, attendez. Soit on est précis.
Soit on est précis.
Allez-y. D'accord. Il y a effectivement ce type d'attitude est une réalité dans les médias. Pour quelle raison? On va remodeler le fil. Donc on a le droit de critiquer la presse. On a le droit d'être en colère.
Bien sûr.
On a le droit de considérer qu'il y a parfois de la part de la presse des comportements qui sont une telle distance d'un mépris des citoyens que ça, à juste raison, nous indigner. Pour défendre ce métier, pour défendre la liberté de la presse.
Voilà, Alexis Corbière, ce matin sur RMC. Agathe Cagé, c'est pourquoi maintenant, finalement, là, d'un coup, il y a eu un tir groupé pendant deux semaines?
Parce que les journalistes sont une cible facile et une cible trop facile. Il y a un tir groupé qui part parce que la France Insoumise a réglé son problème avec le média, qui était une belle tentative de créer un média alternatif et qui aujourd'hui fait face aux mêmes problématiques que tous les médias traditionnels, mais avec en plus un problème assez important de ligne éditoriale, que c'est extrêmement facile pour Marine Le Pen, qui se retrouve empêtrée dans des affaires, notamment dans les affaires avec le Parlement européen, à qui elle doit aujourd'hui une somme estimée à plus de 7 millions d'euros, de taper sur les médias comme ceux qui défendraient le système. Et quand vous n'avez pas d'arguments politiques à opposer et ni de projets politiques concrets à présenter aux Français, comme c'est peut-être aujourd'hui le cas de Laurent Wauquiez, c'est plus facile de taper sur des méchants médias qui ne répercuteraient pas la parole. Donc les médias sont la cible facile du moment. Malheureusement pour les journalistes.
Malheureusement,
pour les journalistes.
Voilà, on va continuer à être une cible dans un instant. L'info à 20h51, Stéphane Milhomme.
Et dans la Ghouta orientale, en Syrie, le convoi d'aide humanitaire se retire avant la fin de sa mission. C'est l'ONU qui l'annonce ce soir. Ces dernières heures, une trentaine de camions devaient s'engager pour apporter de l'aide aux populations de ce secteur de la Syrie, un secteur rebelle en proie aux raids ce matin encore du régime de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 44 civils avaient été tués. Plus de 24 heures après des avalanches dans les pays de Savoie, les recherches n'ont pas permis aujourd'hui de retrouver trois personnes portées disparues, un raquettiste. Après l'avalanche de Samoin, en Savoie, deux randonneurs dans le secteur d'Arèche-Beaufort. Les chances de les retrouver vivants demain s'amenuisent. Le gouvernement retiendra bien l'âge de 15 ans comme seuil de non-consentement à une relation sexuelle. La mesure fera partie du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Une confirmation ce soir de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Force ouvrière et la CFTC signent d'ores et déjà l'accord sur l'assurance chômage. L'accord prévoit entre autres qu'il y aura davantage de démissionnaires qui seront indemnisés. Les autres syndicats ne se sont pas encore prononcés. Et puis Arnaud Démare conserve le maillot jaune de leader. L'étape du jour du Paris-Nice a été remportée ce soir à Vierzon par le néerlandais Groenewegen au sprint. Demain, le peloton gagnera le Puy-de-Dôme et Châtel-Guyon.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, la classe politique est en train de prendre une habitude en ce moment, enfin certains hommes et femmes politiques, c'est bien tiré sur les journalistes. On a vu en quelques jours hein, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, également Marine Le Pen. Charlotte Dornéa, c'est aussi une critique qui marche auprès des Français?
Je crois que c'est ça, surtout la question qu'il faut qu'on se pose, nous, en tant que journalistes, ouais. C'est que, effectivement, vous avez raison, les journalistes sont une cible facile, mais pourquoi? Moi, je me dis, si tous les hommes politiques réussissent à s'entendre sur une chose, c'est qu'effectivement, critiquer les journalistes fonctionne électoralement, c'est bien qu'il y a du répondant aussi chez les Français, et qu'ils nous détestent pas, ils se lèvent pas le matin en disant, tiens, je vais détester les journalistes, ça va être sympa dans ma journée. C'est qu'il y a peut-être aussi des raisons, et qu'il y a effectivement, je pense, une uniformité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répercussion de la parole politique. Tous les hommes politiques sont invités, et d'ailleurs, personne n'a jamais contesté ça. Les éditorialistes sont très différents sur tous les plateaux de télévision, donc on entend effectivement plusieurs sensibilités, mais là on parle du traitement journalistique. Et effectivement, je vais prendre un exemple, mais Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, pourquoi est-ce qu'on peut comprendre effectivement qu'ils surfent là-dessus? C'est que quand on traite à la fois l'extrême gauche donc et l'extrême droite, on parle, les adjectifs qui reviennent très souvent, c'est inquiétant, c'est populisme. Et cette seule manière de traiter, comprenez bien que quand vous êtes à la tête d'un parti politique qui a des électeurs et donc une adhésion de certains électeurs, ces adjectifs en permanence attribués à leur manière de faire de la politique, peut-être un petit peu crispant pour eux comme pour leurs électeurs.
Ce qui est assez étonnant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, alors pourquoi nous ça nous parle aussi, c'est parce qu'il s'adressait à France Info directement, parce qu'il a commencé à ne pas être content à partir du moment où on a enquêté sur ses comptes de campagne. Mais quand les journalistes parlaient de Thomas Thévenoud, il n'y avait pas de problème.
Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a un jeu, à mon avis, auquel il ne faut pas laisser trop de place. C'est-à-dire que lui, effectivement, quand on s'intéresse un peu trop près à un homme politique, il tape sur les journalistes. Je pense qu'il faut le prendre, c'est-à-dire comme c'est la réalité. C'est-à-dire que à la fois nous on est capable d'avoir la liberté de taper sur des hommes politiques, acceptons qu'ils aient la liberté de taper sur nous de la même manière. Je pense que là, il y a effectivement aussi un jeu qui est un peu de bonne guerre.
C'est ça, Anne-Sophie Beauvais aussi, quand on est, à un moment, les journalistes ont longtemps, certains hommes politiques ont été, fait figure, on pouvait s'intéresser vraiment à eux d'une manière régulière. Finalement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une manière de répondre, c'est
non,
une façon de répondre.
Il y a des vraies questions, effectivement, qu'on peut se poser sur les médias. Les chaînes d'infos ont continué, les réseaux sociaux ont changé la donne, et il y a des vraies questions qui se posent, donc on peut les regarder. Mais là, je pense qu'on est effectivement dans quelque chose d'assez différent. On est dans un jeu. D'ailleurs, je suis pas sûre que les ressorts soient, que soit pour Wauquiez, Mélenchon ou Marine Le Pen, soient tout à fait les mêmes. Mélenchon, on a quelqu'un qui voit vraiment le champ politique comme un rapport de force entre le peuple d'un côté et puis les castes de l'autre côté, donc les castes économiques, les castes médiatiques. Donc plus vous allez cogner sur votre ennemi, plus vous allez donner le sentiment d'être porteur de tout le discours.
Le secours de Wauquiez, quand même.
Wauquiez, je pense que Wauquiez, pour le coup, c'est très conjoncturel aussi. Il lui est arrivé une énorme mésaventure. Donc, d'un côté, il réagit.
Surjoué, peut-être. C'est peut-être ça qui dénonce.
Oui, enfin, ce qui lui est arrivé était. Donc, il surréagit, il réagit, il s'en prend aux médias. Mais c'est une. Et Marine Le Pen, je pense que la tradition est un peu plus
classique.
Plus classique. Mmh. Et puis, c'est cette idée qu'en fait, nous, Front National, on a été marginalisés dans les médias pendant très longtemps. Et elle surfe un petit peu encore sur cette idée-là. Donc les ressorts sont peut-être pas non plus forcément les mêmes chez les trois personnages.
Patrice Moyon, c'est du classique finalement, oui, aussi, enfin, chez les politiques ou pas?
Tout ce qui est exagéré est insignifiant, mais là en l'occurrence, c'est dommage parce que il y aurait un vrai débat à mener effectivement sur les médias aujourd'hui, oui, sur le traitement de l'information, sur même le profil de recrutement des journalistes, la manière dont on couvre l'information. Mais là, les médias deviennent effectivement une manière d'esquiver aussi les vrais problèmes.
Oui, c'est ça, Agathe Cajun.
Ouais, mais je pense qu'il y a un vrai sujet, une vraie responsabilité aussi des responsables politiques, parce que dans le contexte actuel de diffusion des fake news, de concurrence des savoirs, des hommes politiques qui d'un côté tapent sur les journalistes comme ne faisant pas correctement leur travail, de l'autre côté tapent sur les chercheurs en sciences sociales comme critiquant un pouvoir dans lequel ils ne voudraient pas mettre les mains, ça conduit les Français qui veulent aller chercher de l'information de mauvaise qualité, à n'avoir confiance ni dans leurs journalistes, ni dans leurs chercheurs. Et qu'est-ce que ça donne? La diffusion des fake news, ça donne recours aux sites complotistes, et ça donne un rapport à l'information et à l'information de qualité et au savoir extrêmement distant de la part des Français.
Cette généralisation me gêne toujours un peu, parce que les gens ne sont pas juste idiots, et que s'ils vont chercher l'information ailleurs, c'est peut-être qu'ils ont été aussi déçus par leurs journalistes. Parfois, je pense qu'il faut accepter de le voir et de retravailler là-dessus
mais
aussi.
Mais ils ne le sont jamais par France Info. Voilà, en tout cas, c'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas Agathe Cajun d'être passée ce soir. Merci Anne-Sophie Beauvais, merci Charlotte Darnaud de Valeurs Actuelles. La une de Ouest France demain, Patrick Boyon,
Sur la formation professionnelle.
Très bien, à retrouver demain. Et nous on retrouve Olivier Lagarde. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher.
Ne soyez pas surpris, c'est moi. Donc pour Tout est politique au programme ce soir.
Je ne suis jamais surpris. Vous vous souvenez de la Grande Bellezza, mon cher Jean-Mathieu?
En permanence.
La Grande Politica, ça pourrait être le titre de Tout est politique ce soir. On va évidemment parler de l'Italie. On va parler aussi de plein d'autres sujets. On sera avec Sacha Houlier de La République En Marche, Daniel Simonet de La France Insoumise, Julien Aubert des Républicains, et puis du politologue Bruno Cotterès. Tout est politique, une heure de politique, grand format, juste après vous informer.
Bien sûr, c'est dans quelques minutes, donc à suivre Tout est politique sur France Info.